Bonjour à tous. Comme chaque vendredi depuis le deuxième confinement, Entendez-vous l'écho se rend au chevet des secteurs bouleversés par la pandémie. Après l'annonce hier d'un couvre-feu avancé à 18h dans l'ensemble de l'Hexagone, c'est la restauration qui nous intéresse et avec elle les menaces qui pèsent sur la survie des cafés, bars et brasseries. Malgré le renforcement des aides prévues par l'État, avec une activité parfois réduite à zéro, de nombreux patrons peinent à garder la tête hors de l'eau. Alors tandis que les mesures sanitaires se durcissent, la restauration pourra-t-elle payer l'addition? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Évoquer la longue épreuve des restaurateurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. Roland Aigui, président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration. François Blouin, président fondateur du cabinet de conseil Food Service Vision, spécialisé dans la restauration. Et Franck Pinet-Rabarouste, fondateur et rédacteur en chef d'Ataboula, une plateforme d'information sur la gastronomie en France et à l'étranger. Une émission à écouter tout de suite en direct ou plus tard sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France.
On a deux menus dégustation, on envoie deux amuse-bouches.
Léa, oui, chef.
J'ai une caille et j'ai un filet de sol pour la table neuve. J'attends toujours les filets d'un noyau. Oui, on s'active s'il vous plaît.
J'ai une terrine de carpaccio.
Une autre terrine sur le pouvoir. J'ai combien de filets de sol à ce moment-là ?
Excusez-moi, chef. Figurez-vous que Al Reeves dit que le gigot n'a jamais été aussi bon.
Oh, vraiment ? Mais qu'est-ce qu'il en sait?
Ok, tous les Peterson sont là, ils veulent vous dire leur admiration pour votre talent.
Vous les remercierez, mais la place d'un chef est dans sa cuisine.
Oh, allez les saluer au moins, ils font partie de mes meilleurs clients.
Dans une minute. Attention, ne les faites pas trop cuire, après,
oui, elles sont trop dures.
Non, sèche, Léa. Je suis dure, elles sont sèches.
Oh, Kate, on passe en revue le menu de la semaine prochaine.
Tout à l'heure, d'accord?
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Cette ambiance de cuisine tirée du film Le goût de la vie de Scott Hicks, nous aimerions tous l'entendre à nouveau et plus encore évidemment les restaurateurs, cafetiers et patrons de bar qui traversent une épreuve particulièrement difficile. Alors hier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un couvre-feu à 18h partout en France. C'est une mauvaise nouvelle de plus pour un secteur en pleine tempête, Roland Aigui?
Oui, bien sûr, même si nos établissements sont fermés aujourd'hui, c'est encore un coup dur de plus, puisqu'à 18h, effectivement, tous les restaurants qui aujourd'hui faisaient de la vente emportée ne pourront plus le faire, au moins pour le soir, puisqu'il faudra que tout le monde soit rentré pour 18h. Donc, ce sera un chiffre d'affaires qui sera en moins, même si, effectivement, on l'a entendu hier, le gouvernement avait décidé que ce chiffre d'affaires n'allait pas être fiscalisé. C'était une bonne chose pour les restaurateurs, mais il faut savoir que ce chiffre d'affaires qui vient simplement pour tout ce qui est vente à emporter, vient pour continuer à faire vivre l'entreprise, pour simplement étancher les frais fixes. Mais on est très inquiet sur l'avenir. On a entendu effectivement le gouvernement hier lancer une bouée de survie à la profession. Mais les professionnels aujourd'hui sont épuisés psychologiquement et on va y revenir sûrement.
Une inquiétude et un épuisement, François Blouin, parce qu'évidemment la fermeture des bars et restaurants qui avait été décidée d'abord le 14 mars, puis à nouveau le 23 septembre, a déjà eu des conséquences économiques majeures pour le secteur?
Oui, à l'instant où on se parle, effectivement, on rêve tous de retrouver l'ambiance que vous avez passée dans votre extrait sonore. Et malheureusement, ce n'est plus la réalité de l'interaction qu'on a avec la restauration. À l'heure où on se parle, le secteur a été terriblement touché. On estime que l'ensemble de la restauration, donc y compris restauration collective et circuit alternatif, a perdu 35% de son activité sur l'ensemble de l'année 2020. La restauration commerciale en particulier, c'est 45% de baisse d'activité. C'est un choc d'une ampleur absolument inconnue. Tous ces chiffres sont issus de la revue stratégique que nous menons en écoutant les professionnels depuis le mois de mars. Maintenant, tous les trimestres, on interroge les grands dirigeants de cette industrie, certains syndicalistes, en collectant les informations. Et ça nous permet de mesurer cette ampleur et ça nous permet aussi d'échanger avec eux sur comment ils voient les perspectives à venir.
Une grande ampleur, vous l'avez dit, François Blouin, et cela d'autant plus que le secteur de la restauration était déjà affaibli par des baisses de fréquentation qui étaient liées dans les années précédentes par les attentats de 2015, les manifestations des Gilets jaunes, plus récemment les grèves contre la réforme des retraites fin 2019. Franck Pinet-Rabarous.
Oui, alors c'est sûr que la restauration prend de plein fouet la crise actuelle. Ces dernières années, effectivement, à Paris notamment, on a vu certains quartiers avec de fortes baisses de fréquentation. Mais je crois que le problème aussi est très complexe et je crois que si aujourd'hui beaucoup de restaurateurs souffrent, nous avons aussi des restaurateurs qui montrent, et on en parlera peut-être dans l'avenir, mais une très grande résilience par rapport à la problématique actuelle de la fermeture de leur restaurant physique. En réinventant leur chiffre d'affaires, en réinventant leur business, on le voit avec le click and collect, on le voit avec la livraison, on le voit aussi, notamment dans la haute gastronomie, qui est encore un secteur à part, des chefs qui interviennent pour des repas, alors souvent à distance, mais dans des cours de cuisine ou autre. Donc, on a aujourd'hui surtout, je crois, un métier qui, face à la crise, montre sa capacité à se réinventer. Et puis aussi, soulignons-le, même si je pense qu'on y reviendra aussi, mais les aides de l'État sont extrêmement importantes. Et si on s'excentre un petit peu, si on oublie uniquement le problème franco-français, on s'apercevra qu'à l'étranger, la situation est bien pire. Alors oui, effectivement, nous aurons des faillites, 25, 30, 35%. Personne ne peut le dire aujourd'hui, puisque personne ne peut dire encore quand les restaurants vont rouvrir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura beaucoup de pertes et on aura aussi un métier qui va se réinventer à tous les niveaux, en termes de business, en termes même d'activité, je crois.
On va revenir sur tous ces points, en effet, qui sont essentiels, Franck Pinet-Rabarous. Mais d'abord, cette fermeture des bars, des restaurants, se fait au nom de la lutte contre la pandémie. Plusieurs études ont mis en avant le fait que les bars et restaurants sont des lieux de transmission importants et que le respect des mesures sanitaires a tendance à se relâcher, à passer une certaine heure. La fermeture de ces établissements était inévitable, François Blouin ?
La fermeture était effectivement inévitable compte tenu des choix faits en matière de politique sanitaire. C'est-à-dire que il y a une priorité qui est donnée par le gouvernement à vouloir maintenir les écoles en place, à vouloir maintenir l'activité économique générale, priorité qu'on peut pleinement comprendre. Et après, c'est un peu un effet de vase communicant, de choisir dans quel lieu on accepte que finalement se fassent les contacts sociaux et se fassent les échanges. Ce qu'on peut pointer, c'est que les restaurants sont fermés depuis plus de deux mois maintenant et que le virus continue à circuler. Donc ça montre bien que c'est très complexe. Les restaurants sont un des lieux potentiels de transmission, sont loin d'être le seul lieu. Et à un moment donné, il y a des priorités politiques qui sont décidées et qui ne m'appartient pas de commenter.
Roland Aigui, sur la nécessité de ces fermetures ?
Oui, mais tout simplement, vous savez, depuis l'origine, nous avons travaillé sur le protocole sanitaire renforcé avec le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, effectivement, l'intérêt, si jamais le jour où on va rouvrir, c'est d'atteindre quand même la chose la plus importante, c'est-à-dire le seuil de rentabilité, puisque nous avons des contraintes qui sont très importantes pour justement protéger nos clients et protéger nos salariés. Et on sait qu'effectivement, on est allé au bout sur ce protocole sanitaire renforcé et que la profession ne peut pas aller plus loin de ce qui a été proposé. Autrement, effectivement, on ne pourra jamais atteindre ce que je parle de ce seuil de rentabilité. Donc oui, on travaille avec le ministère, j'allais dire, depuis le mois de mars dernier, surtout avec Bruno Le Maire, avec Alain Griset, avec Jean-Baptiste Lemoine, et justement tout le dispositif qui a été annoncé hier soir est un dispositif qui a été travaillé en partenariat avec le gouvernement et les organisations.
Alors il faut dire que la restauration, les bars et les cafés représentent à peu près 200 000 entreprises en France, que cela fait travailler plus de 800 000 personnes. Et aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude, Roland Aigui, que ces mesures sanitaires qui sont décidées maintenant depuis la fin du mois de septembre, cette fermeture des bars et restaurants entraîne une avalanche de faillites, notamment à cause des charges incompressibles à payer, à commencer par le loyer.
Oui, alors bien sûr, vous savez, notre secteur, on a toujours, effectivement, vous le rappelez tout à l'heure, dès que la société connaît un soubresaut, quel qu'il soit, on est toujours en première ligne. que ce soit nos entreprises sont toujours bousculées et impactées. Et puis, je ne parle pas effectivement des filières dont on dépend, c'est-à-dire je pense aux producteurs, aux viticulteurs, aux brasseurs, aux grossistes, etc. La filière de la restauration, elle est économiquement très, très, économiquement et socialement très, très importante. Nous, c'est un capteur de la société et on est obligé, nous, chaque fois, et on l'a fait, à réagir et à nous adapter le plus rapidement possible, que ce soit pour les gilets jaunes, le terrorisme, les grèves sociales, les crises économiques, etc. Donc, oui, on est très inquiet, mais là, cette bouée, effectivement, qui a été lancée hier soir, il y a une volonté de deux parties, c'est de sauver le maximum, effectivement, de cafetiers, d'hôteliers, de restaurateurs qui étaient en survie, je dis, jusqu'à maintenant. Et ce qui est très important et dont il faut mettre l'accent, c'est qu'on va être soutenu, au moins sur ce qui a été lancé hier soir, jusqu'à la fin de l'épidémie. C'est ça qui est important. Mmh. Avant, on faisait une politique de petits pas. Et là, il y a quand même un engagement fort du gouvernement par rapport jusqu'à la fin de l'épidémie. Autrement, effectivement, on avait un observatoire et on avait plus de 35% des petites PME et TPE qui auraient failli et il y aurait eu des centaines de milliers de chômeurs de plus supplémentaires, c'est évident.
Mais pour bien comprendre ce qui pèse comme contrainte financière sur ces établissements, Franck Pinera-Barouste, il faut évoquer le loyer gelé fait, mais aussi le matériel qui est souvent acheté en location longue durée avec des mensualités à payer chaque mois. Or, il y a un certain nombre, plus de la moitié des bailleurs de l'hôtellerie-restauration qui ont notamment refusé d'effacer le loyer de novembre en échange d'un crédit d'impôt comme cela leur avait été proposé par le gouvernement. Franck Pinera-Barouste.
Oui, alors effectivement, les charges fixes sont aujourd'hui le problème de la profession. Après, il y a aujourd'hui aussi une incertitude juridique. Nous avons une jurisprudence, nous avons fait un article sur le sujet sur Atabula, notamment une jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui dit qu'aujourd'hui, les loyers peuvent être suspendus, c'est-à-dire, strictement parlant au niveau juridique, que les loyers actuellement ne seraient pas à payer et qui pourraient être repoussés et que le bail, du coup, serait repoussé. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture juridique. Alors, on verra si elle est confirmée. On verra, bien évidemment, la suite des décisions de première instance ou en appel. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une possibilité de repousser ces loyers-là. C'est une décision qui est passée un petit peu sous les radars. Nous l'avons vu passer, donc on en a parlé, mais attention, je ne dis pas que la solution est certaine, je dis en tout cas, il y a peut-être une marge de négociation en s'appuyant sur une décision juridique pour repousser cette charge fixe, c'est effectivement très importante et probablement la plus importante. Mmh. Sur le reste, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de professionnels qui ont réussi à réduire les charges fixes au maximum, qui ont aussi des aides, beaucoup ont eu des PGE, alors des prêts garantis par l'État, pas tous, Roland Aigui peut-être sait plus que moi quels sont les chiffres exacts en la matière, mais il y a aussi quand même beaucoup d'aides qui vont permettre de passer ce cap-là. Après, et François Blanc, je crois, l'a évoqué, il y a une fatigue morale, psychologique qui est extrêmement forte et qui est peut-être paradoxalement, pour beaucoup, plus importante qu'une usure économique. Même si, bien évidemment, tout ça est à prendre avec beaucoup de précautions.
Alors, fatigue psychologique, usure économique, qui ne sont pas les mêmes, François Bloin, selon les établissements dont on parle. Il y a déjà les bars et restaurants qui arrivent à se maintenir à flot relativement grâce à la vente à emporter, à la livraison à domicile, et à maintenir le lien avec la clientèle. Mais les restaurants qui souffrent peut-être le plus, ce sont ceux qui se trouvent dans les zones touristiques et les quartiers d'affaires qui sont désertés.
Oui, je crois que vous avez fait quelques émissions sur l'évolution de l'urbanisme et du rapport au lieu et aux populations. La restauration, elle est directement aussi liée, non seulement en termes d'activité, mais en termes de territoire. Donc aujourd'hui, les lieux qui sont le plus concernés sont ceux qui vivaient sur le tourisme, la clientèle de bureau, donc clientèle professionnelle, et bien évidemment, tourisme d'affaires. C'est comme ça que Paris cet été, pour citer un chiffre très marquant, l'été a été à moins 17 sur l'activité de la restauration, Paris était à moins 49, le reste de la France était à plus 1. Donc on voit bien qu'il y a des zones pour lesquelles l'impact est beaucoup plus fort. Et puis effectivement en termes de type d'activité, Franck a tout à l'heure employé le terme de résilience, je pense que le boulot qu'ont fait les restaurateurs est formidable en termes de transformation et de résilience. Et donc, en termes de type d'activité de résilience, ben, les restaurateurs ou les cafetiers, une activité qui est quasi exclusivement sur la boisson aujourd'hui sont extrêmement pénalisés. C'est très très difficile pour eux. Les restaurateurs qui avaient une activité plus diversifiée et qui ont su à temps lancer de la vente à emporter, de la livraison, certains d'entre eux arrivent même à trouver un modèle économique très différent d'avant, mais qui fonctionne correctement. On a vraiment les deux extrêmes entre ceux qui sont à l'arrêt quasi complet, ceux qui arrivent à se réinventer dans la crise et même à trouver un modèle économique qui fonctionne. Ils sont clairement une minorité, mais une minorité très significative aujourd'hui.
Vous n'avez pas terminé votre dîner ?
J'ai plus faim, c'était très bon.
Il faut finir, tout finir.
Mais ça va quand même, ça m'a passé.
Non.
Comment non ?
Vous allez me suivre à la cuisine.
Oh, hein ? Vous allez me toucher ? Mais
venez, venez.
Mangez.
Mais je ne mangerai pas. Mais si. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Monsieur Duchemin. Les relais des cigales. Ça vous rappelle rien ? Spécialité italienne. Du monde tous les jours. Et vous m'avez enlevé mes 2 étoiles. Vous vous souvenez maintenant ? Et vous m'avez ruiné. Mangez ! C'est pas très bon, hein ?
C'est même très mauvais.
Eh oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Hein ? Eh oui. Mais au relais de cigales, c'en était déjà.
Voilà, vous avez sans doute reconnu Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, film de 1976, réalisé par Claude Zidi. Un clin d'œil pour parler des difficultés des restaurants étoilés qui ne sont pas épargnés par la crise actuelle, notamment parce qu'ils sont souvent particulièrement endettés à cause de la course aux étoiles, Franck Pinera-Barouste.
Ah, là, vous posez une drôle de question. Ils sont endettés. Je dirais pas qu'ils sont forcément endettés parce qu'on a près à quelques 600 restaurants étoilés en France et on a, alors pas autant de situations différentes bien sûr, mais on a quand même des profils de restaurants très très différents entre le grand palace qui appartient à des puissances étrangères ou le petit restaurant étoilé, petit entre guillemets, qui appartient à un chef entrepreneur et solitaire. Bien sûr, on est dans des modèles économiques très différents. Et surtout, je rappelle que le Michelin n'a jamais exigé, tout au moins officiellement, d'investir beaucoup d'argent pour avoir des étoiles. Et ces dernières années, le guide Michelin a montré que l'un n'était pas dépendant de l'autre. Et c'est un vrai virage très important du guide Michelin qui sera peut-être confirmé cette année, puisque le guide Michelin 2021 sortira en France, sera annoncé tout au moins dans lundi prochain.
Mais la réalité, c'est que des investissements financiers considérables sont décidés pour tenter de décrocher une étoile, tout de même, pour une Pinera-Barouste.
Oui, parce que certains chefs se disent que cet investissement-là va permettre d'obtenir des étoiles, alors que le discours officiel du guide Michelin, c'est l'assiette et rien que l'assiette. Bon, donc, mais ça ne les empêche pas d'investir dans l'assiette au niveau du contenant et du contenu, bien évidemment. Donc oui, bien évidemment, mais le problème, je crois, est plus dans... Et c'est vraiment quelque chose qui va peut-être évoluer dans les prochaines années, qui va faire évoluer la restauration, c'est la question des marges. Aujourd'hui, les marges sur les assiettes dans les restaurants étoilés est extrêmement faible. Contrairement à une pizzeria, contrairement à une crêperie, contrairement à beaucoup d'autres secteurs de la restauration, où vous faites des marges beaucoup plus importantes. Et aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, et parce que l'époque s'y prête aussi, et peut-être l'envie du client, beaucoup de chefs hésitent aujourd'hui et hésiteront probablement dans les semaines qui viennent à reprendre la voie des cuisines gastronomiques et peut-être iront vers ce qu'on appelle la bistronomie, vers des offres beaucoup plus simples, street food, comfort food, pour prendre moins de risques économiques et avoir une vie aussi beaucoup plus calme. Aujourd'hui, on voit les chefs, notamment donc les chefs étoilés, qui sont des forçats de travail, redécouvrir un autre monde. Combien de chefs m'ont dit c'est la première fois que je passe les fêtes de fin d'année avec ma famille, j'ai redécouvert ci, ça et ça. Et donc peut-être que demain, ils vont dire j'ai envie finalement de prendre moins de risques économiques, de rester avec ma famille, de moins travailler quelque part, ou de mieux travailler.
Certains, mais s'ils veulent garder leur étoile, Franck Pinera-Barouste, il faut absolument travailler comme un forçat, comme vous le dites. Parce que si on est rétrogradé par le guide Michelin, on voit ses profits chuter très lourdement.
Alors là encore, j'ai envie de mettre un peu de complexité. Certains chefs étoilés n'ont pas perdu de chiffre d'affaires, mais au contraire, on peut penser bien sûr à la maison de Sébastien et Michel Bras à l'Aïole. qui ont été rétrogradés de 3 à 2 étoiles et qui continuent de faire un carton plein pendant la période d'ouverture. Je vois aussi des chefs qui cette année vont annoncer qu'ils vont travailler moins, 4 jours par exemple au lieu de 5 avant, et qui vont probablement garder, voire gagner des étoiles. Donc je crois que l'un n'est pas dépendant de l'autre, bien évidemment que c'est un investissement total, mais je crois en tout cas que ce schéma de la gastronomie où il faut travailler comme pas possible, avec des heures absolument incroyables, avec des marges extrêmement faibles, peut-être a fait son temps. Et on voit depuis quelques années des chefs qui font le choix, par exemple à Paris notamment, de ne plus travailler le week-end, ce qui est assez nouveau. Avant, la sortie du samedi soir dans un restaurant étoilé était presque traditionnelle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la nouvelle génération a fait le choix d'être ouvert du lundi au vendredi, et le week-end, le vendredi soir après le service, de partir à la campagne, de partir en tout cas en famille, profiter et prendre du bon temps. Donc tout ça, je pense, redessine doucement un autre schéma de la gastronomie étoilée, et le Michelin, à son corps défendant peut-être, sera obligé de s'adapter à ce schéma-là. Et puis dernier point, surtout, c'est que les horaires et cette dureté du travail des cuisines vont aussi évoluer, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent travailler dans ce monde-là, toujours autour de la restauration, mais moins en moins dans la restauration étoilée, qui a une image de milieu extrêmement dur, et les sujets des violences en cuisine qui est ressorti.
Alors,
récemment.
Beaucoup de sujets dans ce que vous dites, Franck Pinera-Barousse. Mais alors, effectivement, on entend bien que les restaurants étoilés donc connaissent aussi des difficultés dans la période actuelle, et il y a aussi d'autres types de restaurants. En fait, à tous les niveaux, les difficultés sont là. Il faut rappeler que parmi les 200 000 établissements que compte la France, plus du tiers fournissent une restauration rapide. Et alors, des chaînes comme McDonald's, Burger King ou Hippopotamus, Roland Egui, sont aujourd'hui sérieusement également en difficulté?
Oui, écoutez, on aurait dû commencer justement par d'autres petits chiffres pour nos auditeurs. Vous dites effectivement qu'il y a 200 points de vente où on peut se restaurer en France, c'est très important de le préciser, et qu'il y a effectivement, dans le haut de gamme, 628 restaurants étoilés. Mais aussi derrière, il faut rappeler qu'il y a à peu près 30 000 restaurants où il y a effectivement un artisan cuisinier qui tous les matins se lève, fait son marché, qui cuisine avec des produits bruts sur place, qui respecte, qui son ADN, je veux dire, c'est de faire plaisir à ses clients. Et ça me paraît très important. Mais il y a que 30 000 restaurants en France qui effectivement a un artisan, il y a un cuisinier, il y a une cuisine. Donc, il fallait le préciser. Et il y a un autre chiffre qui me paraît aussi très important, c'est le déjeuner, le repas du midi, c'est-à-dire les prix hors domicile. Il y a 80% de ces repas qui sont pris le midi, surtout dans les grandes métropoles et dans les grandes villes, sont à moins de 15 euros. Donc il faut effectivement, tout ça fait partie, j'allais dire, du package de la restauration. Et ça me paraissait important de le préciser. Et après, derrière, effectivement, sur l'emploi en gros, effectivement, nos conventions collectives évoluent très rapidement, comme la société d'ailleurs, parce il faut effectivement embaucher, on a des gros besoins, effectivement, de collaborateurs, de qualité dans ce domaine-là. Il faut former, et il faut fidéliser derrière. Et fidéliser, c'est là que ça devient très, très, très important. Et c'est essentiel pour l'ensemble de ces restaurants et de ces restaurants. Alors oui, tout le monde a des problèmes, effectivement, tout le monde a c'est pour ça qu'on a beaucoup, on est très optimiste s'il n'y avait pas eu cette épidémie, vous savez, au mois de mars, je crois que la restauration, on était lancé sur un développement absolument extraordinaire. Quel que soit le thème, que ce soit la restauration thématique, la restauration traditionnelle gastronomique ou rapide, peu importe. Mais il y avait des besoins énormes de collaborateurs et de salariés. Malheureusement, on a eu ce coup dur qui a fauché tout cet élan.
Et alors, est-ce que les aides de l'État vont permettre aux restaurants, aux bars de se maintenir à flot? Parmi les différentes aides, le gouvernement a promis jusqu'à 10 000 euros par mois d'indemnisation pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires en novembre. Il y a aussi le fonds de solidarité qui permet aujourd'hui de toucher 20% du chiffre d'affaires. Ce sont des mesures conséquentes, François Bloin.
Aujourd'hui, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, les mesures à date sont parmi les plus importantes comparées à d'autres pays. Je pense qu'on peut rendre hommage au travail des différentes organisations syndicales et représentatives, que ce soit l'UMI, représentée par Roland Egui aujourd'hui, GNI, SNRTC, SNAR, qui ont défendu les enjeux du métier. Et à l'heure où on se parle, aujourd'hui, en 2020, le taux de défaut des restaurateurs a été très en dessous de celui de 2019, de manière un peu artificielle, mais par l'effet de ces mesures. Et aujourd'hui encore, en tout cas pour toutes les structures indépendantes, les mesures couvrent, en tout cas permettent d'attendre le jour meilleur de la reprise. Et ce qui est en train d'être couvert, et j'ai pas encore, peut-être Roland pour être plus précis que moi, j'ai pas encore capté l'ensemble des précisions des mesures décidées hier, c'est de permettre notamment aux groupes de restauration plus structurés, plus importants, qui représentent plus, qui sont des, finalement des entrepreneurs qui ont réussi, hein, c'est souvent ça, des groupes de restauration, c'est à la base des restaurateurs qui eux-mêmes ont choisi de devenir des marques et de se développer. Pour eux, il y avait une grosse impasse ces derniers temps puisque eux n'étaient pas couverts sur leur charge fixe. Et là, il y a eu clairement une vraie progression dans les mesures d'accompagnement.
Il y a eu un nouvel effort, Roland et Guy, insuffisant évidemment, j'imagine, mais réel effort tout de même.
Oui, il faut le reconnaître, effectivement, il y a un effort, oui, on est obligé de le reconnaître l'ensemble, unanimement, l'ensemble de la profession reconnaît qu'il y a eu un effort important depuis hier soir. Effectivement, pour les groupes de restauration et d'hôtellerie, d'ailleurs, la prise en charge des charges fixes, dès lors que l'entreprise réalise 1 million de chiffres d'affaires par mois, donc on peut additionner ce fonds de solidarité et il est aujourd'hui plafonné à jusqu'à 3 millions d'euros alors qu'il y a 48 heures, il était à 200 000 euros. Donc c'est vrai qu'il y a encore une négociation avec la Commission européenne pour augmenter le plafond, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Donc ça va sauver énormément de groupes hôteliers et de restauration. Et c'est ce qui va permettre, effectivement, qui était déjà prêt à faire des plans sociaux d'entreprise très, très importants. Donc oui, il y a eu une présentation qui, hier, que, je pense, sur les annonces, sur le fonds de solidarité, effectivement, il y a des...
Des annonces importantes, mais l'une des difficultés, ouais. C'est peut-être, jusqu'ici en tout cas, le délai qui existait avant de toucher ces aides, Roland et Guy.
Oui, alors voilà, effectivement, aujourd'hui on est le 15, et bien à partir d'aujourd'hui, effectivement, on peut demander à Bercy donc d'avoir cette aide concrètement. Elle est en ligne aujourd'hui, et le versement est début de la semaine prochaine. Bon, ça aussi, ça a été annoncé, c'est concret, et bien je rappelle que là, on est pour le mois de décembre 2020. Et ensuite, tous les mois, donc il va y avoir effectivement ce fonds de solidarité qui va générer des moyens pour faire survivre l'entreprise. Parce que vous savez, aujourd'hui, la trésorerie que ce soit des PME, des TPE ou des très grandes entreprises était pratiquement à zéro. Et le problème, c'est qu'on était couvert de dettes parce que là aussi, heureusement que le PGE a été reporté et différé d'un an parce qu'il fallait commencer à rembourser à partir du mois de mars, du mois d'avril, alors qu'on est toujours fermé et qu'il n'y a pas un euro de chiffre d'affaires.
Alors effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est que tous les restaurateurs n'ont pas pu obtenir ces fameux prêts garantis par l'État, qui sont pourtant bien utiles. Roland et Guy, pourquoi est-ce que, en particulier, les brasseries et restaurants indépendants ont plus de mal à obtenir ces prêts que les chaînes ?
Ça s'est démontré. C'est sur l'ensemble de la filière, c'est-à-dire de l'hôtellerie et de la restauration, on a consommé un peu plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Et il y a 65 000 restaurants qui ont demandé un PGE, enfin qui ont eu un PGE. Alors à hauteur, je crois, si on fait la ligne médiane, à hauteur de 60 000 euros. Et le reste, c'est l'hôtellerie. Il y a beaucoup aussi de petits restaurateurs qui n'ont pas osé demander de PGE, chose qu'ils pourra faire dès demain, puisqu'effectivement ça a été soutenu par Bruno Le Maire, et il y a toute une discussion après à prendre contact avec son banquier. Mais
c'était effectivement la question de l'endettement qui se posait, François Blouin. Il y avait une inquiétude de la part de certains établissements qui refusaient du coup de se tourner vers les PGE et une inquiétude pour leur accorder ces fameux prêts garantis par l'État.
Oui, en fait, cette crise, comme le disait Roland, 2019, c'était l'année record pour la restauration française. Début 2020, on était sur une tendance en fort développement. Et à l'entrée de la crise, vous aviez certains restaurateurs qui, pour différentes raisons, avaient une activité qui fonctionnait moins bien, était plus faible, et d'autres qui avaient été en bonne santé économique. Dans un premier temps, en tout cas, les banquiers ont prêté plus fortement à ceux qui avaient des santé financières saines, des états financiers sains, et moins à ceux qui allaient moins bien, comme ils ont fait leur métier de banquier. Donc, tous les ans, pour se donner un chiffre, que fournissent nos partenaires d'Atometrix. En moyenne, chaque année, c'est en restauration traditionnelle entre 7 et 8% des restaurants qui ferment. En restauration rapide, c'est entre 10 et 12%. Donc, tous les ans, vous avez de toute façon un volant d'activité qui s'arrête parce que soit l'activité économique n'est pas bonne, soit simplement des opérateurs, des restaurateurs ont envie de faire autre chose et choisissent d'arrêter. Donc ceux qui étaient faibles n'ont pas eu les prêts, ceux qui étaient en bonne santé les ont eus, et c'est la situation à date aujourd'hui.
Alors comment les...
On pourra parler de comment, au-delà des prêts, ils peuvent se réinventer économiquement, parce que c'est ça aussi qui est intéressant.
Justement, j'allais y venir, comment les bars et les restaurants peuvent-ils se réinventer pour passer la crise, mais aussi pour préparer l'avenir? On en parle dans un instant, mais d'abord on a rendez-vous au bar avec la chanteuse Juliette.
Tranquille, j'étais pépère avec mes copains de routine, percolateur et pompe à bière. Quand un beau soir ils sont entrés, quatre playboys et trois donzelles m'ont dit avec autorité: nous souhaiterions boire un cocktail. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila Tagada, un Beaujolais, un Sauvignon Passion, un Baileys Fraise, un whisky Kirikiwi. Ils ont dû se tromper d'adresse, on dirait qu'ils ne pigent pas, ou que c'est qu'ils ont posé leurs fesses. Ici c'est pas le Lutetia. Seulement voilà, par ces temps de crise, faut pas refuser la clientèle. Ni une ni deux, hop, j'improvise. Je vais leur en faire, moi, des cocktails. En v'là du rhum, pomme, du viandox, fond de rox, du sasano, tabasco, du pernod, porto pruneau, du guignolé, du bartisol menthol, du ricard poire, du whisky kirikiwi. Vous me croirez, si vous voulez, ils sont revenus dès avec la gueule enfarinée et une brochette d'autres clampins. Je leur ai servi mes créations, y en a aucun qui a vomi. Y en avait même pour dire: oh, c'est bon, et c'est vraiment the place to be. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, c'est le défilé des vedettes. Je crois que j'ai trouvé la combine, chaque jour une nouvelle recette. Je fais des rom-poms, des gins grenadines, des vodka Nutella, des tequila Tagada. Je fais du kirmir, du pif avec du sif, du desktop yop, du whisky kirikiwi, du malibu-minidou, du pomerol vitriol, de l'eau de vaisselle Javel. Et ça, ça part comme des petits pains. Alors, ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel, le mescal gasoil et... Mais ça c'est un peu... Il y en a qui sont restés coincés quoi, ils sont devenus aveugles et tout. Bon, excusez-moi, est-ce que vous faites le picon oignon goudron? Hein? C'est pas bon, hein?
Rhum-pomme, Juliette, sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, suite de notre discussion sur l'économie des bars, des cafés, des restaurants. Nous sommes toujours en compagnie de Roland Egui, président du syndicat, du principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, de Franck Pinera-Barouste, rédacteur en chef de la plateforme d'information à Taboula, et de François Bouin, président du cabinet de conseil Food Service Vision. Alors l'un des points de tension aujourd'hui concerne la question de l'assurance. Pour les restaurateurs, les assureurs n'ont pas joué leur rôle. Expliquez-nous cela, Roland.
Ah bah écoutez, depuis l'origine, depuis le mois début mars, effectivement, toute la filière concernée par nos métiers était autour de la table à Bercy, que ce soit les banques, dans tous les domaines. Et les seuls qui ont mis effectivement la tête dans le sable, ce sont les assureurs qui n'ont pas du tout joué leur rôle.
Et qui ont exclu le risque pandémique également dans les nouveaux contrats, en demandant à un certain nombre d'entreprises de signer des avenants qui diminuent les garanties.
Exactement, et on s'aperçoit que d'ailleurs depuis, on a mis nous une structure d'avocats en place à l'UMI qui contrôle toutes les polices d'assurance. Et on a des centaines et des centaines de contentieux où effectivement il y a une fenêtre sur lesquelles il y a on peut effectivement remettre en question ces contrats et cette prise en charge qui n'a pas été retenue par les assurances. Et moi sincèrement, ils ont dans ce domaine-là, dans la négociation et dans la relation qu'il y a eu avec le gouvernement et les professions, ils ont été pitoyables.
C'est aussi votre avis, Franck Pinera-Barousse. Les assurances ont cherché au maximum à se dédouaner de leurs obligations et cela ne concerne pas que le secteur de la restauration.
Ah oui, je crois qu'on peut dire qu'ils ont été extrêmement mauvais, pour ne pas dire méchants même et injustes. Ils ont absolument tout fait pour se dédouaner de leurs obligations jusqu'à dénoncer certains contrats de façon absolument odieuse. Donc, c'est un sujet très important parce qu'avec des sommes considérables, il y a eu beaucoup d'engagement de la part des restaurateurs sur cette question des assurances, avec une complexité juridique énorme aussi, parce que, comme chacun le sait, un contrat, ce sont toujours des petites clauses cachées à droite à gauche, écrites en plus petit et encore plus petit que le plus petit, donc très très dur à lire, et les chefs ont beaucoup de qualités, mais ce ne sont pas des juristes ou des spécialistes des questions assurantielles ou juridiques, donc qui ne savaient pas trop comment s'en sortir et qui avaient en face d'eux des Goliaths prêts à dégainer les avocats, donc une peur du conflit juridique et autre chose à gérer bien sûr pour les chefs que la question des assurances. Donc un, eux n'ont pas fait le boulot, et deux, les chefs ont été un peu dépassés, donc heureusement les syndicats puis également différents mouvements, hein, dont Atabula a été co-créateur pour l'un d'eux, beaucoup d'actions ont été mises en place, beaucoup de raffus médiatiques aussi qui a permis un petit peu de sortir ça dans les médias et donc de mettre les assureurs et AXA au premier chef en face de leurs responsabilités.
De telle sorte qu'ils ont quand même accepté de geler les cotisations des contrats multirisques professionnels pour l'année 2021 dans les secteurs les plus touchés par la crise.
Ce qui était effectivement le minimum. Mais surtout, et contrairement à l'Angleterre par exemple, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas eu d'harmonisation jurisprudentielle. Je reviens encore, excusez-moi, mais à tout ce qui est jurisprudence et harmonisation. C'est-à-dire que si vous étiez dans un tribunal à Marseille, à Paris, à Lille ou à Brest, vous n'aviez pas les mêmes décisions, alors que peu ou prou, les contrats étaient les mêmes. Donc aujourd'hui, le restaurateur se retrouve avec une incohérence, et surtout une non-assurance, si vous me permettez ça, juridique par rapport à son contrat d'assurance. Donc, nous sommes encore aujourd'hui, début 2021, dans une forme d'ignorance de qu'est-ce qui va se passer réellement, alors qu'il faudrait prendre les 15 ou 20 contrats majoritaires dans le secteur, les analyser, et la Cour de cassation pourrait, ou d'autres institutions judiciaires pourraient mettre ça en place et dire, voilà, tel contrat, c'est ça la décision à prendre, tel autre, c'est ça la décision à prendre. Alors, ça simplifierait le débat et je crois que ça rassurerait aussi beaucoup de restaurateurs.
Je voudrais quand même vous faire entendre le point de vue des assureurs, puisqu'ils rejettent ces accusations. Écoutez Florence Lustmann, la présidente de la Fédération française de l'assurance. Elle était au micro d'Alexandra Ben Saïd sur France Inter le 5 décembre dernier.
D'abord, moi, ce que je dis, c'est que depuis le début de cette crise sanitaire, les assureurs payent un très très lourd tribut à la crise. On est extrêmement touchés, on est au plus près de nos assurés, on est les premiers à voir les énormes difficultés des restaurateurs, des entrepreneurs, des indépendants. Mais il faut pas oublier que nous, on assure la vie de tous les jours. Donc quand il y a, par exemple, 30% de plus d'arrêt de travail depuis le début de l'année, eh bien nécessairement, nos contrats qui s'appliquent, ils vont occasionner beaucoup plus d'indemnisation que dans les années normales. Mmh. Au total, ça va être plus de 2 milliards d'euros de plus de sinistres qui vont être à la charge des assureurs en 2020. Je ne peux pas entendre qu'on se serait enrichi pendant la crise, c'est juste n'importe quoi. Au total, quand même, il faut savoir que dans cette crise, pour les cafés, hôtels, restaurants, on aura servi quand même beaucoup d'indemnisations qui sont liées à la crise Covid.
François Bloin, que vous inspire ces propos? Il y a eu aussi des difficultés importantes du côté des assurances?
Je ne suis pas spécialiste du monde de l'assurance, donc je ne saurais pas répondre pour les difficultés des assureurs. Ce qui est clair et ce qui a été partagé à l'instant, c'est que entre les clauses de contrat d'un côté et la posture générale de la profession d'assureur de l'autre, les restaurateurs ne se sont pas sentis ni reconnus, ni compris, ni accompagnés de manière globale.
Mais est-ce qu'il ne faut pas créer un nouveau système d'assurance aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que cela manque en effet pour les entreprises en cas de risque exceptionnel comme une pandémie.
Et c'est là où j'allais en venir, c'est que peut-être qu'une des vertus de cette crise, outre la résilience qui a été mise à l'épreuve et démontrée, c'est aussi le travail collectif. Donc je pense que aujourd'hui, la profession de la restauration, qui est une des clés de l'attraction de la France, et qui est une des clés de l'emploi, et notamment de l'emploi des plus précaires, qui est une des clés tout simplement du lien social et du lien local, se fédérer encore plus fortement et faire poids envers les assureurs pour construire un contrat qui fasse sens pour la suite. C'est ça qui est en jeu.
Et on pourrait aussi inventer un système qui passerait par un partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous en pensez, Roland Aiguille ? Il y a une nécessité aujourd'hui de repenser l'assurance ?
Eh bien, écoutez, on n'a pas entendu, effectivement. Je reviendrai sur un chiffre quand même de la présidente de la Fédération française des assurances, où je suis en désaccord avec elle, parce que depuis 2020, quand on regarde les résultats finaux, on s'aperçoit que les sinistres, effectivement, par exemple, de voitures ou les sinistres d'appartements et de maisons, ils ont des résultats qui sont bien supérieurs à d'habitude. Donc oui, ils ont des très bons résultats. Non, mais ils ont pas. Moi, je crois qu'ils ont fait une erreur de stratégie politique dès le départ. S'ils avaient fait comme les Allemands, les Anglais, c'est-à-dire prévoir effectivement une perte d'exploitation à hauteur de 15%, de 20% pour l'ensemble de la profession. D'abord, ils ont regardé une image autre que celle qu'ils ont maintenant, et ensuite ils auraient répondu à ce que la profession voulait. Là, on s'est senti vraiment bafoué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, depuis ce moment de tension, nous, on s'est organisé à l'intérieur, les organisations. Et là, on est capable, dès ce mois-ci, maintenant, on a mis en place une assurance professionnelle pour le monde des cafés, des hôtels, des restaurants, qui aujourd'hui, en prenant en compte effectivement toutes les faiblesses que l'on a subies jusqu'à maintenant, en essayant de les compenser. Donc là, on est opérationnel à partir de ce mois-ci.
Alors, il y a effectivement l'assurance pour les bars et restaurants, mais ce qu'il faut souligner et qu'on n'a pas abordé depuis le début de cette émission, Franck Pinera-Barousse, c'est que cette fermeture des bars et restaurants a aussi eu des lourdes conséquences sur les fournisseurs de la restauration. C'est toute une filière qui trinque aujourd'hui.
Ah oui, c'est sûr qu'un restaurant tout seul n'est rien. C'est un écosystème dans lequel il y a en amont et en aval, il y a d'un côté le client, mais de l'autre côté, il y a des dizaines de fournisseurs de toute nature. Donc forcément que un restaurant qui s'arrête est un écosystème qui se grippe. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, la filière du vin, que ce soit bien évidemment les maraîchers et tous ces secteurs-là ont été impactés aussi. Mais ce qu'on a pu voir aussi ces derniers mois, c'est que ils ont tous su, plus ou moins, hein, bien évidemment, réinventer aussi leurs activités. Pour ceux qui vendaient exclusivement au restaurant, se sont mis à vendre aux particuliers. Donc, par exemple, de nouveaux canaux. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas encore là évoqué, qui est la digitalisation du restaurant et de ce secteur-là, où finalement, tous se sont mis à mieux connaître leurs clients, à développer des outils numériques, hein, pour les contacter, que ce soit mail ou SMS, et leur dire, nous avons aujourd'hui un écosystème à faire vivre, et vous pouvez acheter nos produits que nous ne pouvons plus vendre dans nos restaurants. Donc, il y a des chaînes de solidarité qui sont mises en place. Il y a tout un système vertueux, là, qui s'est mis en place. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas bien évidemment qu'il n'y a pas des grosses baisses de chiffre d'affaires chez les grossistes, ou, comme l'a dit un producteur récemment, les petitistes, par opposition aux grossistes. Tous, finalement, ont cherché des débouchés, et c'est là aussi, je veux répéter ce mot, mais qui me semble extrêmement fort. Ils ont aussi montré, eux, leur résilience face à des produits avec des durées de vie courtes. Donc, il n'y avait pas le choix. Soit elles étaient vendues, soit ces produits étaient vendus, soit ils étaient jetés. Donc, ils ont tous trouvé, via des marchés, les marchés classiques, tels que ceux qu'on connaît, ou d'autres marchés, au sens économique du terme, pour multiplier les débouchés. Donc, oui, bien évidemment que l'écosystème est impacté, mais je crois que la résilience et la capacité à s'organiser autrement a permis à beaucoup, beaucoup de passer le cap, même si on ne voit pas encore vraiment le bout.
Alors justement, comment se renouveler face à la crise ? Dans le film « Beaux-parents » de Hector Cabello-Reyes, le patron de la brasserie chez Antoine accueille des habitués dans un restaurant transformé.
Oh, mes clients préférés.
On vient pas trop tôt.
Oh, pour les amis, jamais trop tôt. Installez-vous.
Dis donc, ça a changé, hein.
T'as tout refait.
Ça vous plaît pas?
Ah, si, enfin, si, ouais. J'aimais bien, moi, c'était rustique.
Bienvenue au 21e siècle.
Hein? Si.
Merci.
Et la petite, elle est pas là?
Non, non, on est trois.
Ah, c'est marrant cette table lumineuse, hein.
Ah oui, tu as vu, c'est des LED.
Ah. Ouais. Mais c'est vrai que la lumière est des LED.
Ah, d'accord. T'as changé la carte aussi.
Ah, on change de catégorie à tous les niveaux.
Et dis-moi, Antoine, c'est quoi le caprice toscan là au rubis phocéen?
Alors, c'est une tomate marbrée parsemée de fromage crémeux de buffle.
Une tomate mozzarella, quoi.
Ah non, ça n'a rien à voir. Non, 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 c'est une tomate qu'on a travaillée.
Mais, elle est où, ma terrine de sanglier?
Ah si, regarde là. Mmh. Célébration du gibier d'automne.
Ah.
30 euros.
Mmh. Et il n'y a plus les frites dans les accompagnements?
Les frites?
Oui.
Allez, bonne. C'est drôle. Je vous laisse choisir. Hein, en vous souhaitant un bel appétit.
François Bloin, dans la crise que les restaurateurs traversent aujourd'hui, ils ont plus que jamais besoin de se réinventer au-delà peut-être de la décoration ou du changement des intitulés dans le menu.
Ils l'ont déjà fait. Si vous prenez l'ensemble des réinventions qui ont eu lieu depuis le début de cette crise, les restaurateurs ont appris à intégrer en salle des gestes d'hygiène qu'ils maîtrisaient déjà en cuisine, à se distancier, à mettre en place des QR codes, à proposer une nouvelle expérience. Donc du côté de l'expérience, vous voyez, c'est pas de la LED ou de la révisite de menu, mais en tout cas, il y a des gros changements. Mais le changement principal qui est en train de se mettre en place, il est vraiment dans le modèle même de ce que c'est que d'être restaurateur. Et on voit que s'accélère une polarisation entre des lieux qui vont être des lieux de flux, de services de nourriture, de food service, comme le disent les Américains et l'acronyme que nous avons repris pour notre entreprise, et qui vont être beaucoup plus tournés sur la vitesse d'exécution, la vente à emporter, la livraison. Un chiffre sur la livraison en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, c'est 1 € sur 3 fait en restauration qui est fait par la livraison. C'est colossal. Mmh. Donc, d'avoir cet axe-là sur une restauration très fonctionnelle. Et puis, de l'autre côté, la restauration qu'on entendait dans votre premier extrait de film, le goût des choses, et dans lequel là, on va être vraiment dans de l'expérience, dans du plaisir, dans peut-être une plus grande distance, peut-être plus de temps laissé aux choses, probablement la redécouverte des produits, et notamment des produits locaux, qui est une attente très très forte pour les consommateurs. On devrait assister à une polarisation finalement des choix de modèles dans la restauration et des choix de façon de proposer la restauration.
Et dans tous les cas, la nécessité d'inventer de nouvelles choses. Il y a eu les offres paniers de chefs, il y a aussi ces chefs qui font des émissions télé, des produits dérivés. Il y a aujourd'hui beaucoup d'idées à prendre dans ces expériences menées dans cette période si particulière, Roland Hégui.
Surtout, il y a ce qui a modifié effectivement le comportement du consommateur, c'est le numérique. Hein. Quand on a vu surgir les nouvelles technologies, qui a complètement remodelé le marché, et j'y croyais pas beaucoup d'ailleurs, et de la restauration. Et ça a complètement transformé nos rapports avec le consommateur. L'efficacité du numérique est très importante pour la performance d'un restaurant. Alors, je parle pas d'un hôtel. Je crois qu'effectivement, Internet aujourd'hui a fait exploser la restauration, la clientèle qui se déplace. Je crois qu'il y a plus beaucoup de place maintenant pour l'imprévu. Hein. Et d'ailleurs, le volet qui est aussi un petit peu dangereux, c'est que le consommateur maintenant a un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire d'encenser ou de dénigrer un établissement. Donc on a vraiment négocié un virage là depuis quelques années, et c'est pas prêt de ça va continuer effectivement à se développer avec différentes applications, etc.
Un consommateur dont le comportement va peut-être changer, dont les habitudes vont peut-être changer. Est-ce qu'on ira autant au restaurant lorsque les mesures sanitaires s'assoupliront, mais est-ce qu'elles vont encore changer davantage? François Blin, vous avez fait une étude là-dessus. Est-ce qu'on va revenir au restaurant? Les Français, en tout cas dans les sondages, sont majoritairement favorables et prêts à revenir dans les restaurants?
Alors, je peux tous vous rassurer là-dessus, les Français ont très envie de revenir au restaurant. Ils sont 73% à déclarer, c'était fin novembre, au pire moment du confinement, à dire « je veux revenir au restaurant ». Et encore plus intéressant, l'indice de peur, qui est un indice que nous suivons depuis le début de la crise, avait baissé. C'est-à-dire que les consommateurs ont compris que les lieux de restauration sauraient s'adapter, sauraient leur proposer une expérience de repas à la fois convivial et sécurisé, donc ils en ont extrêmement envie.
Et en même temps,
quand on ouvrira, ils reviendront. Et on le voit d'ailleurs sur cette fin d'année, où ne pouvant revenir, les consommateurs ont utilisé plus que ce que, à quoi s'attendaient les professionnels, les repas de restaurants qui sont allés chercher dans les restaurants, qui se sont fait livrer pour les repas de fête. Ils ont tous très très envie de se retrouver à table le plus rapidement possible.
Mais peut-être trop tôt si on regarde du côté de l'Italie, puisque sur les réseaux sociaux, de nombreux restaurateurs annoncent qu'ils rouvriront ce vendredi avec ou sans l'accord du gouvernement. La fatigue des restaurateurs est telle qu'il y a également un risque de fronde et de réouverture sauvage en France, Roland Aigui ?
Oui, alors là, bon, il faut faire très attention parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des collectifs qui dans cette période très difficile, j'allais dire, où il y a des cris de désespoir, de détresse de plusieurs chefs d'entreprise à qui on a interdit de travailler, il ne faut pas l'oublier. Donc nous sommes, je le répète, de véritables capteurs de ces émotions-là. Mais par contre, nos professions, elles sont à bout de souffle. Donc heureusement qu'il y a eu hier cette bouée d'oxygène qui va nous permettre d'attaquer le premier trimestre 2021 en étant un peu plus optimiste.
Et qui devrait empêcher ce type de fronde, les aides qui ont été annoncées hier.
Oui, voilà. Mais je voudrais quand même souligner, nous sommes, nous, une organisation responsable. Et on ne peut pas appeler à ouvrir... car cela, ça ferait prendre des risques inconsidérés aux chefs d'entreprise, des fortes amendes, des fermetures administratives, tout ça. Notre rôle, nous, en organisation, c'est de maintenir, de conforter ces aides-là, ces dispositifs, jusqu'à la fin de l'épidémie, et de les faire évoluer, effectivement, pour sauver un maximum d'entreprises et d'emplois. Notre énergie, on est mobilisé, toute notre énergie, tous les jours, depuis le début de la crise, va dans ce sens-là.
Et alors, Franck Pinera-Barouste, sur cette question du changement des habitudes des Français, et peut-être plus spécifiquement sur la haute gastronomie que vous connaissez particulièrement bien.
Oui, j'aimerais juste revenir sur on parle souvent de réinvention dans tous les univers, et je trouve que le mot est un tout petit peu dangereux parce que finalement on ne réinvente pas les choses, elles évoluent naturellement, et surtout en période de crise, ce sont des fausses réinventions, il n'y a pas de rupture souvent qui se crée dans les crises, mais plutôt les accélérations des tendances passées. Et je crois que là, dans la restauration, on voit très très bien que tout ce qui va se mettre en place était déjà bien évidemment émergent, voire relativement présent, avant même le début de cette crise. Notamment dans la digitalisation, dans le click and collect, comme on dit en mauvais français. Et la livraison, tout ça existait déjà avant, mais bien évidemment avec la fermeture administrative des restaurants, le mouvement s'est accéléré. Donc ça, c'est une chose que je voulais préciser. Après, sur la façon dont la haute gastronomie et tout ça, le client, il est là. Le client, il l'a montré en mai et juin dernier. Il est ressorti très massivement au restaurant, et donc je reste absolument persuadé que dans la culture française, le restaurant garde une place première. Certes, on aura peut-être d'autres habitudes, mais n'oublions pas aussi que pour la haute gastronomie notamment, que le fait de pouvoir livrer des plats ou d'aller chercher des plats directement au restaurant va faire évoluer l'offre avec des tarifs peut-être moins élevés. On a majoritairement une image trop chère du restaurant étoilé, ou tout au moins très chère, et donc ça reste un événement d'exception, alors que peut-être cette diversification de l'offre, puisque c'est bien vers ça que nous allons tous,
permettra de rendre cette cuisine plus accessible.
Accessible et tout aussi désirable finalement, parce que quand on la mange chez soi, à un moment donné, on va se rendre compte, et d'ailleurs on s'en rend compte tous, je crois, que manger chez soi même quelque chose d'un très bon plat d'un chef étoilé chez soi, ça n'a pas le même goût, au sens large du terme, que lorsqu'on le mange au restaurant, parce qu'il n'y a pas le service, parce que le restaurant est aussi en lui-même un écosystème avec la cuisine et le service. Et donc, je crois que demain, la diversification va modifier quelque part, bien sûr, la restauration, mais elle va amplifier son désir, ou tout au moins, je l'espère, en tout cas, bien évidemment.
Roland Aigui, un dernier mot peut-être sur les difficultés du secteur à l'heure où l'incertitude est totale sur la date de réouverture des bars et restaurants. On a entendu votre inquiétude, mais une inquiétude tempérée par les aides qui ont été annoncées hier. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre maintenant dans les prochaines semaines ?
Écoutez, moi je crois que, tout simplement, malheureusement, nous ne sommes pas... Notre profession, on n'est pas des professionnels de la santé et nous sommes obligés de respecter ce que dit le gouvernement sur l'épidémie au jour le jour. Donc l'enjeu pour nous, organisation responsable, il faut pas l'oublier non plus malgré nos engagements, c'est de sauver des vies. Hein. Donc oui, on n'a aucune effectivement, on a On a aucun éclairage sur la date d'ouverture, mais vu l'effort qu'a fait le gouvernement, les décisions, nous espérons, je le répète encore, arriver à tenir le coup pour ouvrir dans les meilleures conditions, parce qu'il ne faut pas oublier que le jour où on pourra rouvrir, l'activité ne va pas repartir de suite. Il faudra quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc 2021 va être encore une année qui va être encore difficile, quoi qu'il arrive, même si cet été on pourra fonctionner normalement, ce que j'espère. Mais
2021.
Le but final, c'est quand même de sauver le maximum de PME, de TPE, d'entreprises, de restauration, d'hôteliers, et surtout derrière, surtout le verrez, il ne faut pas oublier ce million d'emplois qui sont dans nos services. Il faut les garder chez nous, parce que ce sont des collaborateurs qui sont compétents dans tous les domaines. Il ne faut surtout pas les perdre.
2021 va être encore une année difficile, François Blouin.
2021 va être clairement une année de reprise, malgré tout, par rapport à un point bas historique. On estime que suivant les scénarios, ça sera entre 5 minimum, 5%, maximum 20% de reprise sur l'année. Donc ça va être une année difficile, parce que on se situe encore très en dessous de l'année 2019. Et la profession va faire le dos rond, va s'adapter, va inventer malgré tout de nouvelles manières de servir, de nouvelles manières de proposer les repas. On le voit tous les jours à l'œuvre dans la réalité de l'offre de restauration dans les villes ou dans les villages. Et va attendre le jour où enfin on pourra tous se retrouver à table, ce qui est finalement l'espérance de à la fois des consommateurs et des professionnels.
On a tous hâte de ce jour, absolument. Merci beaucoup Roland Aigui, François Blouin et Franck Pinet-Rabarous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Roland Aigui, je le rappelle, président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. François Blouin, président fondateur du cabinet de conseil Food Service Vision. Et Franck Pinet-Rabarous, fondateur et rédacteur en chef d'Ataboula, la plateforme d'information sur la gastronomie. Un grand merci à tous les trois.
C'était Nanana Daman Land. I'm getting stupid.
C'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée avec Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Maïwenn Lejehan. La semaine prochaine, on se glisse dans la peau de l'un des pères de la pensée néolibérale, Milton Friedman. On se demandera entre autres à quoi sert selon lui la liberté en économie. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.